13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé, on s'occupe de votre forme jusqu'à 13h sur Beurre FM. Bonjour et bienvenue avec une petite nouvelle, je vous l'ai dit hier, elle s'appelle Sabrina Gassim, artiste. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour Philippe.
Vous êtes art thérapeute et coach en développement personnel.
Oui, effectivement.
Et vous êtes cofondatrice d'un concept qui s'appelle Miroir, mon beau miroir. Et vous co-animez notamment des conférences et des séminaires sur le divorce. Et ça s'appelle « J'ai pas raté ma vie, j'ai divorcé ». En faire connaissance avec vous, c'est quoi l'art-thérapie ?
Très brièvement, alors l'art-thérapie, on va dire en fait qu'on utilise différentes formes d'art. Mm-hmm. Afin de d'accompagner les personnes à extérioriser des émotions positives comme négatives.
Mmh. Quand vous parlez d'art, c'est quoi ? C'est le dessin ?
Alors ça peut être vraiment tout type d'art, c'est-à-dire l'écriture, le théâtre, la musique, la danse, la peinture, vraiment tout type d'art. Donc moi personnellement, je suis spécialisée dans l'écriture et les arts créatifs. Mmh. Et donc voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que par moment, dans une vie où on va avoir certaines difficultés à verbaliser, mm-hmm. d'accord, certaines émotions, du coup l'art thérapie va permettre cet accompagnement dans le sens où on va passer de l'inconscient au conscient à travers l'art. On est dans un travail de création. Mmh. Et c'est à travers tout cet accompagnement, en fait, qu'on va pouvoir, comme je vous le disais, extérioriser une émotion. Ou alors, de l'autre côté, il y a aussi une branche, en fait, où l'art-thérapie va accompagner des personnes qui vont... en fait, on va les aider à développer leur fibre artistique. Voilà. Puis ça s'adresse un petit peu à tout le monde.
Du coup, les gens ne verbalisent pas.
Alors si, on va juste dire que c'est une autre forme de thérapie qui va s'adapter justement aux personnes qui vont avoir des difficultés à verbaliser, car tout le monde n'a pas la faculté de pouvoir exprimer son émotion ou d'être entendu comme il se doit. Et du coup, certaines choses gangrènent finalement à l'intérieur, et que ce soit dans le couple ou au sein d'une entreprise, etc. Et c'est vrai que finalement, ne pas poser les mots... consciemment et de le faire d'une autre manière à travers l'art, finalement on découvre un réel, il y a vraiment un champ d'action finalement qui s'ouvre en
d'accord.
gros, hein, j'étais très sommaire.
Oui, mais en fait, ce sont des personnes qui vont, même s'ils ne vont pas parler, ils vont s'exprimer.
On s'exprime un petit peu quand même, bien sûr,
voilà.
Mais l'expression est basée sur l'art. D'accord, selon l'art thérapeute et puis sa spécificité, mais la manière dont on va s'exprimer sera vraiment principalement basée sur cet art. Donc là pour moi ça va être l'écriture et les arts créatifs, et ma foi c'est vraiment quelque chose à tenter. On a en général, les personnes qui viennent nous voir, souvent des personnes qui viennent et qui nous disent « Bon, alors moi, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, la psy, la thérapie, le coaching, etc. » Et c'est vrai que, bon, ben, j'ai envie d'essayer. Voilà. Là, pour l'instant, on est encore dans cette démarche où il y a une curiosité. Hein. Les gens viennent plus par curiosité. Convaincus, je ne sais pas. À l'issue, oui. Mais la démarche, voilà.
Mais est-ce qu'il y a besoin d'être un artiste ? Pour refaire de l'art-thérapie, non. Est-ce que si on ne sait pas dessiner, finalement, qu'on ne sait pas peindre, qu'on ne sait pas faire de poterie, qu'on...
J'entends bien.
Alors, du coup, si on n'a jamais écrit de sa vie, est-ce que ça s'adresse...
Je vais vous donner deux réponses. La première, c'est que personnellement, j'aurais tendance à vous dire que nous sommes tous des artistes. Ceci étant, je ne vais pas argumenter puisque j'en suis vraiment viscéralement convaincue. De l'autre côté, non, nous ne sommes pas obligés d'être un artiste fini ou pas, dans la mesure où, comme je vous l'explique, nous sommes dans la création. Donc le but, c'est pas absolument pas d'exposer ça dans son tableau, dans son salon, etc. C'est vraiment le moment où on crée en fait cette œuvre, cette peinture, etc. Que quelque chose va sortir, d'accord. L'art thérapeute, il est dans cet accompagnement, à savoir, on n'est pas non plus dans l'interprétation de l'œuvre.
Hein, c'est, y a une Donc il n'y a pas besoin que ce soit super joli.
Alors absolument pas, tout est beau, tout est joli, tout vient du cœur. Et puis parfois c'est très douloureux, donc on est vraiment pas... On n'est vraiment pas dans ce concept-là.
Et les personnes qui touchent la terre et à qui ça fait beaucoup de bien, par exemple.
Exactement, mais c'est une forme d'art aussi.
Vous êtes cofondatrice du concept donc Miroir Mon Beau Miroir. Expliquez-nous un petit peu la nature de ce concept.
Alors, Miroir Mon Beau Miroir, c'est un concept... alors, je vais vous dire, honnêtement, j'ai une mémoire...
D'éléphant ?
Magnifique, donc du coup, il y a quelques années, qu'on a créé avec Maïssa Leroy. Mm-hmm. Voilà, donc on est deux, c'est mon amie d'enfance, mon binôme, hein, pour celles qui me connaissent, forcément l'une ne va pas sans l'autre. Et donc on a lancé Miroir Mon Beau Miroir suite à un constat. On a créé plusieurs années plutôt une association qui était concentrée principalement sur les enfants. Et de ce constat, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, nous, on était au contact des enfants, pareil, hein, pour le développement et l'épanouissement, et on réalisait bien que les mamans qui récupéraient les enfants avaient beaucoup, de plus en plus de questions, avec un réel souci d'estime. Et du coup, parallèlement avec toutes nos formations aussi, à côté, on se pose réellement la question, on se dit, bon, alors, en fait, la femme aujourd'hui dans la société, elle a une place fondamentale, tout comme l'homme. Hein. Ceci étant, y a un vrai souci. Elle n'arrive pas à s'accomplir, n'arrive pas à s'épanouir comme il se doit. Mmh. Et du coup, avec Miroir Mon Beau Miroir, on avait envie finalement de lui rendre hommage à travers différentes actions. Je ne sais pas si vous avez été visiter le site, mais c'est vrai qu'il y a différents pôles où on essaie de répondre à toutes les femmes, de la plus jeune à nos mamans. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, c'est du développement personnel principalement. Maïssa Leroy est consultante en développement personnel et formatrice en communication. Et donc, du coup, moi, par le biais de l'art-thérapie, je suis également coach en développement personnel. On a voulu allier finalement ces deux professions. Et de les mettre en symbiose pour pouvoir, ouais, pour pouvoir les accompagner à travers Miroir Mon Beau Miroir.
Les mamans, si vous leur parlez de développement personnel, vont dire, bah, ça, je suis très bien développé. Hein.
Alors, figurez-vous, Philippe.
Vous savez, alors là...
En janvier, on a animé toutes les deux avec Maïssa une conférence. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'était accepter ses faiblesses et s'en libérer. Mmh. Et le public, en fait, c'était dans une mosquée et le public, du coup, s'attendait à une conférence puisqu'il y avait écrit conférence interactive et s'attendait à une conférence religieuse. Donc on a eu à peu près, je sais pas, peut-être 20%. Voilà, on avait affaire à des mamans qui étaient là, mais enfin, nous, on n'est pas venu pour ça, etc. Et c'est vrai que finalement, elles sont quand même restées, elles ont quand même participé. Et pour certaines, on a entendu, eh ben, franchement, si j'avais su, je ne serais pas venue. Bon, maintenant que je suis là, c'est vrai que...
Finalement, c'est bien.
Ouais, c'est pas mal, quoi. Mais ouais, alors, elles n'ont pas forcément peut-être tout compris parce que je pense que du coup, notre discours n'était peut-être pas adapté, en l'occurrence. Mmh. Mais du coup, on avait un public quand même éclectique et c'était intéressant de finalement avoir affaire à ça.
Mais c'est le brassage finalement, c'est les questions qu'on n'attend pas qui sont intéressantes. Vous animez des séminaires sur le divorce et ça s'appelle « J'ai raté ma vie, j'ai divorcé ».
Non, je n'ai pas raté ma vie.
Ah oui, j'ai pas raté ma vie. Mais parce que souvent les gens pensent que divorcer, c'est rater sa vie.
Exactement.
Donc, d'où vient cette idée, finalement, que le divorce, enfin, en tout cas, la fin du mariage, hein, ça veut dire que sa vie est ratée. Alors qu'on peut avoir réussi sa vie professionnelle, sa vie de mère, mais non. Subitement, c'est le fait d'avoir cette vie de couple qui s'interrompt qui fait qu'on a raté sa vie.
Alors, je vais vous répondre d'après notre constat à nous toutes les deux, parce que je ne pourrais pas partir dans des faits historiques. C'est un réel constat de la société, c'est-à-dire je suis convaincue que je ne vous l'apprends pas non plus. On a tous ce constat quand quelqu'un vient te voir et te dit « oui, bah voilà, j'ai divorcé » ou « je vais divorcer ». On a tout de suite un petit peu cette intonation et cette gravité, genre « ah ouais, mince et tout, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah zut !» Bon. On a une empathie humaine et logique, mais avec une gravité qui finalement... porte un échec. Alors, juste une chose très importante, je pense que c'est très important de le préciser, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du divorce. C'est vraiment important de le préciser. Et je ne dis pas dans le sens où qui se justifie s'accuse, mais c'est vraiment important de mettre le point là-dessus.
On va partir d'une réalité.
Exactement.
C'est que, on va dire que, voilà, presque 40% des couples qui se forment aujourd'hui, enfin, les 40% des mariages se soldent par un échec.
Voilà, justement, j'avais ramené les chiffres d'après l'INSEE au niveau de l'indicateur conjoncturel de divorcialité pour 100 mariages. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je suis partie de 2004 où on avait 44,8 et en 2013, donc ce sont les derniers chiffres, 44,2. Donc finalement,
donc ça fait un peu plus de 40% des couples, voilà, des mariages. Hein.
Oui. Voilà, on ne parle même pas des séparations, on parle uniquement des mariages. Donc on voit bien. En termes de réalité, au niveau du constat, qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment un
d'accord.
truc qui se crée.
Mais vous savez aussi qu'il y a cette idée reçue que finalement la communauté serait plus épargnée par les divorces que les autres.
Serait plus épargnée.
Et longtemps on l'a cru que finalement serait. Parce que voilà, on divorçait pas.
Moi, j'ai envie de poser la question. J'ai envie de poser la question. Je ne suis pas certaine que la communauté soit plus épargnée. Ou alors elle l'est épargnée de manière officielle et de manière officieuse, c'est autre chose. Si vous voulez, il me semble en fait que aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Qu'on a encore du mal à accepter. Hein. N'ayons pas peur du mot, c'est tabou. D'accord, on sait que les
divorces. Moi, ça me paraît. Moi, en 2016, dire que le divorce est tabou, vous voyez. Il y a plein de choses qui peuvent être tabou, mais dire que divorcer, c'est tabou en 2016.
Alors, pas divorcer. Pas divorcé.
C'est quoi qui est tabou?
Juridiquement, c'est beaucoup plus facile, etc. Ce qui est tabou, en fait, c'est. C'est
de l'assumer.
Toute la gravité portée autour d'une personne qui va divorcer. De l'assumer pour la personne qui va le choisir, de le subir pour la personne qui et j'y mets vraiment des guillemets, le subit, puisque nous, dans notre séminaire, c'est absolument pas comme ça qu'on accompagne les gens à l'appréhender. Et du coup, tabou dans le sens où, si vous voulez, pour en revenir au titre, c'est un peu un échec. Et alors, nous, je n'ai pas raté ma vie, j'ai divorcé.
En tout cas, ça peut être l'échec d'un mariage, non?
Alors, permettez-moi justement de rebondir là-dessus. C'est une période de vie. Une période de vie.
Quelque chose qui se termine, c'est un succès.
C'est aussi pour laisser quelque chose d'autre s'ouvrir. Ce n'est pas un succès, mais pourquoi est-ce que de suite, ce serait un échec?
Non, je sais pas. Je vous renvoie la question en vous disant, finalement, ben, je comprends qu'on et c'est ce qu'on dit, que voilà, on essaie de positiver toujours, mais en quoi est-ce que ça serait un succès?
Alors, ni un succès, ni un échec. Voilà. C'est-à-dire, on va partir du principe où nous sommes sur une période de vie, et que ce n'est pas sur toute une vie, et que finalement, on va centraliser, nous on appelle ça plutôt une expérience de vie, on va centraliser cette expérience de vie sur un temps donné. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à porter finalement l'étiquette de personne divorcée à partir du moment où ça a été le cas, tout le reste de sa vie. Et c'est sur ce point-là que notre séminaire acte.
Bien, on va justement en parler ce matin jusqu'à 13h. C'est la petite nouvelle, elle s'appelle Sabrina Gassim, artiste. On en parle, se reconstruire après un divorce. 01 53 48 3000, si vous avez des questions à poser. Vous serez les bienvenus, 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et oui, se reconstruire après un divorce. On en parle ce matin avec Sabrina Gassim, artiste, qui est art-thérapeute et coach en développement personnel, cofondatrice du concept Miroir, mon beau miroir. Vous pouvez y aller, ils ont un site et qui anime des conférences et des séminaires dont le titre est « J'ai pas raté ma vie, j'ai divorcé ». J'ai presque envie de dire « J'ai juste divorcé ». Ça s'adresse à qui, vos séminaires? À des hommes ou à des femmes?
Alors, partons du principe que Miroir, mon beau miroir est un concept qui est dédié à la femme. Par contre, avec ce séminaire-là, on s'est retrouvé avec un public. Notre dernière intervention, elle était à Lille, et on s'est retrouvé avec à peu près du 40-60% hommes-femmes. Et c'était, honnêtement, c'était très intéressant de voir finalement un public mixte, parce que le regard aussi de l'homme n'est absolument pas le même que la femme. Et j'ai envie de préciser une chose qui est quand même très importante aussi, c'est que on ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui traversent un divorce ou qui ont divorcé, mais également les personnes qui peuvent accompagner l'entourage, la famille, les amis. C'est hyper important. Elles ont une place très importante.
Surtout les familles. On voit que dans un divorce, les familles ont un rôle très important.
Voilà.
Est-ce que les femmes aujourd'hui n'exagèrent pas le regard qu'on porte sur elles quand elles divorcent? Est-ce qu'elles font pas de la parano finalement?
Waouh. En tant que femme, je vous dirais non, mais sinon.
Parce qu'on peut s'imaginer que les autres, parce que vous avez divorcé, vont penser que. Alors que c'est rarement verbalisé.
Alors déjà, il y a deux choses qu'il va falloir distinguer. C'est la personne qui ne choisit pas son divorce et la personne qui prend cette décision. Dans la mesure où la personne qui choisit son divorce, elle est très rapidement... j'ai pas envie de partir dans des généralités, mais c'est un constat. Elle est très rapidement cataloguée, finalement. Je vais centraliser ça en un mot, d'égoïste. Hein. Tu penses qu'à toi. Alors, s'il y a des enfants, on n'en parle même pas. Tu brises une famille. Donc, on part tout de suite sur quelque chose, finalement, sans essayer de comprendre, en fait, la genèse, en fait, qui a généré...
Tu penses qu'à toi et pas aux autres.
Oui. Oui. Et puis, de l'autre côté, on a la personne qui va choisir... qui ne choisit pas le divorce, ou... Où finalement, qu'elle le veuille ou non, elle va être très rapidement victimisée. La pauvre. Ah mais franchement, ce qui lui tombe dessus. Enfin, j'ai presque envie de vous dire qu'un cancer, c'est mieux. C'est vraiment, c'est un regard extraordinaire.
C'est mesquinette.
Et ou encore mieux, on a aussi ce regard-là où on va avoir des personnes en fait qui, pour ne pas dire l'entourage, hein, et c'est inconscient. Hein, je suis pas dans un discours culpabilisateur. Oui, mais en même temps, bon, voilà, maintenant, si aujourd'hui t'en es là, il faut assumer, quoi. C'est que t'as ta part aussi, c'est que t'as fait quelque chose, c'est que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Donc, du coup, alors, non seulement elle va subir ce divorce, parce qu'elle ne le comprend pas forcément, mais en plus, elle se dit, bon, alors, c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà, là où on se retrouve finalement confronté. Et si vous voulez, c'est préjugé, je mets des guillemets. Nous, on a vraiment envie d'aller au-delà de ça parce que finalement, ça devient pire qu'un préjugé, ça devient une étiquette après qu'on porte à vie. C'est-à-dire, à partir de ce divorce, ben finalement, je suis une personne, je ne pense qu'à moi parce que j'ai décidé de divorcer, donc je décide de ma vie sans me concentrer en fait sur les besoins de mon entourage, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et pareil, j'ai subi un divorce et que j'ai raté quelque chose, je ne suis pas en mesure, et ça on le rencontre beaucoup dans les consultations avec Maïssa, c'est je ne suis pas en mesure en fait de pour reprendre votre terme, de donner du succès à un projet de vie, et notamment là le mariage. Donc on a beaucoup de difficultés avec les personnes finalement qui vont avoir envie de reconstruire leur vie. Voilà.
Mais il faut l'assumer.
Complètement.
Quel est si on devait définir le statut de la femme divorcée, quel est-il?
Il est brodé de pas mal de préjugés que l'on essaye de défaire humblement. Il est... Philippe, le statut de la femme déjà tout court est assez compliqué. Donc, un nœud. Le statut de la femme dans la communauté est compliqué. Deuxième nœud. Le statut de la femme dans la communauté musulmane... Alors là, on ne parle plus de nœud, quoi. C'est-à-dire, je veux vraiment, vraiment distinguer le fait que certaines femmes divorcent, elles le vivent très bien, elles sont épanouies et libérées, et ou pas. Hein. Ce n'est pas forcément une libération, ça sous-entendrait qu'il y a eu un emprisonnement, mais je veux dire, tant mieux. On parle des personnes qui à partir de ce divorce, ne vont pas réussir à... Il n'y a plus l'impulsion, en fait, pour continuer sa vie, parce qu'il y a eu un divorce. D'où le « je n'ai pas raté ma vie », pour reprendre votre terme,
divorcé.
Ouais. On a envie de banaliser. On connaît toute la sacralité religieuse autour du divorce. Et Dieu merci, dans les mosquées, le regard religieux là-dessus n'a pas changé, il est toujours là. Nous, ce qu'on a envie, c'est juste de dire, maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Qu'est-ce qu'on en fait de ces femmes-là?
D'accord.
Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces femmes-là qui ont traversé un divorce? Quel regard? Est-ce que notre regard n'est pas en train de biaiser leur avenir?
Est-ce qu'il est légitime qu'elles se posent la question à quel moment ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a quand même aussi toute cette demande d'explication et beaucoup cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc il y a forcément toute cette étape.
Voilà.
Avant de dire, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau départ, c'est pas forcément un échec. Mais il y a aussi ce besoin naturel de compréhension de ce qui n'a pas fonctionné. Et à quel moment, justement, ça a dérapé?
Alors, complètement, C'est ce qu'on appelle un processus de deuil. Mmh. Hein, qu'on choisisse ou qu'on ne le choisisse pas, ce divorce, on reste toujours dans un processus. Donc oui, pour répondre à votre question, on est dans une normalité effective à partir du moment où on se pose les questions, etc.
Dans quel ordre ? Ouais.
Voilà, exactement. Dans quel ordre, avant ou post-divorce, ça c'est autre chose. Mais oui, c'est normal de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc. C'est un processus. Par contre, le processus, pour beaucoup, s'arrête. Et on reste en fait, si vous voulez, à un étage, avec un focus sur... Ça n'a pas marché, donc... Si vous voulez, c'est inconscient tout ça. Hein. C'est une démarche inconsciente où bah, ça n'a pas marché, donc ça ne marchera pas avec d'autres. Hmm. Si ça n'a pas marché là, ça ne peut pas marcher ailleurs. Et donc du coup, ce que je vous explique, on se fige en fait quelque part qui finalement va nous bloquer pour un avenir. Hmm. Et c'est vraiment là où notre séminaire, voilà, on veut finalement juste accompagner et si vous voulez, les épreuves, on en vit tous. Hein. Donc là, on va rester sur le divorce. Certaines personnes vont vivre comme des expériences ou des épreuves. C'est le regard, en fait, et c'est la perception qu'on va en avoir. Et nous, à travers ce séminaire, on a juste envie de les accompagner à appréhender ce qu'elles ont traversé ou ce qu'elles traversent d'une manière différente. Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elles changent de regard sur leur divorce.
Il faut, non. On aspire à ce que oui.
Hmm. D'accord. Comment est-ce que vous intervenez, vous, et à quel moment vous intervenez alors?
Lors des séminaires?
Oui, parce que un séminaire, c'est presque une. J'ai presque envie de dire que c'est une thérapie de couple, de post-couple.
Alors ça va dépendre en fait parce que ça va dépendre du groupe déjà. Et comme je vous l'expliquais, dans le groupe, on va avoir des accompagnants. À Lille, par exemple, on avait une personne qui finalement était présente parce que son frère traversait un divorce. Mmh. Qu'on salue parce que pour nous, c'était hyper important. Le premier qu'on a fait sur Paris, c'est vrai qu'on avait des personnes qui étaient concentrées sur ce qu'elles traversaient. Et on avait vraiment envie, nous, de poser le doigt sur ça. C'est-à-dire, ce séminaire ne s'adresse pas qu'aux personnes qui divorcent ou qui ont traversé un divorce. Vous savez, on a souvent tendance à dire, bon, bah, puisque ça ne me concerne pas... Mmh. Voilà, moi je me sens pas concernée, donc je n'y vais pas. Ou alors il y a aussi cette contagion. Vaut mieux m'éloigner de ce sujet, j'en ai pas besoin, ça me concerne pas, tout va très bien, comme on dit, hamdoulilah. Donc hamdoulilah, sûr, mais c'est toujours une plus-value que de pouvoir avoir une autre manière de voir comment accompagner une amie. Quelqu'un d'autre, quelqu'un dans sa famille, avec les clés qu'on leur propose lors de ce séminaire.
D'accord, mais comment justement on accompagne quelqu'un qui traverse un divorce? Parce que c'est compliqué de donner des conseils quand on n'est pas soi-même concerné. Comment est-ce qu'on peut accompagner une personne? Quelle est la juste distance? Parce que souvent, alors si on est un ami du couple, il y a toujours la question de la légitimité, de la...
Alors... Excusez-moi.
On veut pas trahir l'un ou l'autre, c'est ça. C'est dans un divorce, vous êtes toujours plus ou moins amené à prendre position. Vous êtes du côté de l'un ou de l'autre.
Justement, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle dans le développement personnel la frontière. La première chose à faire, c'est de pouvoir cadrer ses propres frontières. Et on peut accompagner tout en gagnant une certaine forme de neutralité. Mmh. Alors, elle est vraiment. Toute pourrie ma métaphore, mais je la trouve là pour le coup. La Suisse, d'accord, elle est neutre sur pas mal de choses. Mmh. Elle n'en reste pas néanmoins un pays qui va œuvrer et qui fait des choses. Terrible ou pas terrible?
Bon, c'est pas terrible. Mais c'est bien, au moins ça parle.
Non, mais sinon, sans métaphore pour le coup, vraiment poser sa frontière en fait. C'est-à-dire, je vais pouvoir accompagner, oui, je suis affectée parce que, je sais pas, parce que c'est un couple d'amis et puis j'ai envie de prendre parti, mais dans la mesure où nous, c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui accompagnent, dans la mesure où tu prends parti, déjà, tu ne peux pas accompagner de manière objective. Donc, il faut réussir à se dire, je ne cherche pas le bien pour moi parce que je vais avoir cette empathie ou de la colère, ou etc. Je vais plutôt essayer de garder en vue le fait de me dire, comment sortir de cette expérience de vie avec le moins de dommages possible. De toujours.
Mais quand j'y prends parti, c'est par exemple la famille de l'un, bah, du côté de l'un, et c'est pareil pour les amis. Il y avait les amis que tu connaissais avant, les amis que je connaissais avant. Quand on se sépare, on a l'impression que tout le monde revient dans son camp.
Oui, mais c'est une réalité. Hein, on peut pas, on se sépare.
C'est une loyauté finalement.
Alors ça, c'est une réalité. Mais là, on peut pas attendre de la famille, de l'ancienne belle famille, de prendre parti. Quoique, ça peut arriver. Mais de manière générale, c'est absolument pas ce qu'on demande et ce qu'on attend. Nous, ce qu'on attend juste, c'est que les personnes qui sont vraiment bienveillantes et qui veulent accompagner une personne qui traverse un divorce, de se dire, je n'achète pas le problème. C'est très important.
C'est-à-dire, je n'achète pas le problème,
c'est-à-dire, je vais l'accompagner, mais c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Et tant que j'arriverai à mettre cette frontière en me disant, voilà, c'est son problème, ce n'est pas le mien, j'aurai toujours cette objectivité et le recul nécessaire pour l'accompagner lors de cette expérience, de ces divorces, hein, pour le nommer. Voilà. Je n'achète pas le problème. Ça, c'est très très important de le préciser, parce que ça permet de prendre du recul sur sa vie aussi, personnellement, tout en essayant de... Parce qu'en fait, si on achète le problème, finalement, on va vivre le problème avec elle. Donc, qu'est-ce qu'on lui apporte de positif?
Mais est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, on ne donne pas de conseils, alors?
Alors, il y a conseil et conseil. Voilà, il y a conseil et conseil dans le sens où on a tendance à alors on entend souvent bah c'est bon, vas-y, dès que ton divorce il est prononcé, tu refais ta vie et c'est réglé. D'accord? Il y a peut-être des étapes avant, il y a peut-être une construction, si déconstruction il y a eu à générer. On a pas mal de personnes je pense que il faut y aller par étapes. Si j'ai un conseil à donner, c'est plutôt à la personne qui va accompagner et vraiment c'est d'accompagner. Qu'est-ce que ça signifie accompagner? C'est-à-dire, cette personne, elle va prendre ce chemin. Moi, je l'accompagne.
D'accord. Alors donc, qu'est-ce que ça signifie d'accompagner?
Mais en fait,
accompagner quelqu'un qui divorce, donc, ça veut dire en quoi ça consiste?
Alors, accompagner quelqu'un qui divorce, j'aurais plutôt tendance à dire sur certaines périodes, parce que c'est quand même très lourd d'accompagner quelqu'un qui divorce du début jusqu'à la fin, et ce n'est pas son rôle. Il y a des personnes qui sont habilitées pour lorsque la personne ne le vit pas bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de rester, d'avoir cette neutralité. Sinon, accompagner, en fait, c'est de pouvoir l'aider à relativiser lorsqu'elle-même. Et c'est logique, hein, dans son expérience de vie, va le vivre difficilement, à relativiser. Je dis pas forcément positiver parce que c'est un discours qu'on n'a pas forcément envie d'entendre quand on est quand on est dedans, mais juste de relativiser et de. Je prends souvent cette métaphore. C'est l'histoire.
Elle n'est pas suisse, j'espère celle-là.
Il n'y a pas de mer en Suisse, donc non. Parce D'accord. que c'est l'histoire d'un bateau.
Oui, ça va. Il y a des lacs.
Je me suis mal vendue en métaphore.
Non, sur la Suisse, c'est pas bien.
Donc du coup, on va apparenter le divorce à un bateau. Où on quitte une terre. Et en fait, on va y laisser toute cette toxicité, tous ces parasites. Et puis prendre et garder le meilleur. Parce qu'on a tendance, lorsqu'on divorce, à se dire... que c'est un changement de vie, qu'il soit brusque ou pas. Donc du coup, on est complètement déstabilisé, ce qui nous empêche finalement de continuer notre vie, etc. Donc on va laisser sur cette terre tout ce qui est parasite, toxicité, tout ce qui ne correspond pas finalement à notre écologie et notre écosystème qui peut nous permettre de s'en sortir. Et puis je vais prendre tout ce qui a fait de moi et tout ce qui m'a élevé jusqu'à aujourd'hui, ça je le garde et je le prends. Et puis je vais traverser. Alors, vous savez, cette traversée, Philippe, c'est le divorce. Alors, différentes traversées selon différents parcours. Il y a des tempêtes, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque chaque divorce est différent, mais je pense que voilà, on comprend bien ce que ça signifie. C'est une tempête pour certains, c'est très difficile à vivre. Ceci étant, je garde le cap. D'accord, je suis toujours sur ce navire et je garde le cap. Pourquoi? Parce que je veux arriver à destination. Destination, c'est ma nouvelle vie. Et encore, je trouve que là, pour le coup, c'est peut-être même pas le terme exact, ma nouvelle vie, parce que ça sous-entendrait que du coup, voilà, on ferme le.
C'est la suite de ma vie.
Merci.
Bon, le bateau a mieux traversé la tempête que la Suisse. On parle de la reconstruction après un divorce avec Sabrina Gassim, artiste. Et si vous voulez poser vos questions, justement, peut-être que vous êtes en train de vivre un divorce, vous accompagnez quelqu'un qui divorce, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ça peut prendre du temps de se reconstruire avec et après un divorce. On en parle ce matin avec Sabrina Gassim, artiste, qui est art-thérapeute et coach en développement personnel. Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'un concept qui s'appelle Mon Beau Miroir. Vous avez un site internet et que vous animez des conférences et des séminaires dont le titre est « J'ai pas raté ma vie, j'ai juste divorcé ». Un prochain séminaire très prochainement à Paris.
Oui, le 12, sur ce thème. Philippe, juste pour préciser, on anime donc avec Maïssa Leroy différents thèmes, dont celui-ci.
D'accord.
Voilà. Et donc le prochain, oui, le 12 mars sur Paris. Donc toutes les informations seront sur. On communique beaucoup via Facebook. Donc voilà.
On a vu que le divorce était une traversée. Donc, qu'est-ce que vous proposez, vous, à ceux qui traversent justement ce divorce ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ? Pourquoi on irait vous voir ?
Parce qu'on est gentil, déjà.
Et quand on divorce, on a besoin d'une oreille bienveillante et une écoute, parce que souvent, on est un pestiféré. Enfin, une ou un pestiféré.
Ah, vous trouvez ?
Ouais.
D'accord.
Bah oui, vous êtes à nouveau sur le marché.
Alors,
vous devenez un danger potentiel. Ou alors vous devenez contagieux.
Oui, la contagion, on l'entend souvent. Donc je suis assez contente en fait d'entendre vos propos, parce que finalement on vient déconstruire tout ce qu'on vient d'entendre de notre part. Ce sont ces préjugés, le fait de se dire que on est un petit peu pas forcément fréquentable. C'est une vérité, hein. Porteuse d'échecs. Ce qu'elle fait, elle le rate. Donc ça, c'est compliqué aussi. Donc on va essayer, en fait, finalement. Alors, à travers le séminaire, on arrive sur différentes problématiques. On va parler de l'histoire, des stats, etc. Et puis surtout l'envers du décor. Et en fait, on est principalement dans un travail de conscientisation et d'acceptation. Alors, pas le fait d'accepter que j'ai divorcé, puisque ça, c'est pas dans un séminaire qu'on va faire ça. Et d'accepter.
Mais ça peut prendre du temps.
Alors.
D'accepter de divorcer, de faire le deuil de son couple, ça peut prendre pas mal de temps.
Donc là, on est sur d'autres parallèles, dans la mesure où c'est un accompagnement perso. Ce n'est absolument pas la même chose que le séminaire. Nous, le but de ces séminaires avec Maïssa, quand on arrive face à cette problématique, c'est parce qu'on réalise, en fait, qu'il y a vraiment, un souci. Et comment y remédier ? Alors, c'est déjà pas forcément facile de divorcer. Pourquoi se rajouter toutes ces étiquettes ? Pourquoi se rajouter le fait que parce que j'ai divorcé, je suis moins fréquentable ? C'est hallucinant le nombre d'amis que l'on perd lorsqu'on divorce. Pourquoi je vous pose pas la question ? Première chose, c'est aussi hallucinant de se dire que parce que j'ai divorcé, tout d'un coup, je me retrouve confrontée en fait à c'est comme si finalement il y avait des choses que je ne pouvais plus porter, comme si je n'avais plus l'ambition que j'avais, etc. C'est comme si tout ça, enfin, c'est comme si tout en fait s'était détruit à partir du moment où il y avait un divorce. Mais non, on revient bien sur ce titre. Je n'ai pas raté ma vie, j'ai divorcé. Donc là, tout de suite, il y a quelque chose et je vais le traverser. Donc nous, lors de ce séminaire, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de les accompagner à accepter le fait que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc c'est purement du développement personnel. On a allié finalement les compétences professionnelles de Maïssa et les miennes, et on en a fait, comme je le disais tout à l'heure, on en a fait finalement un mix, parce qu'il y a du développement personnel, il y a de l'art-thérapie, il y a de la boxe aussi. Donc ouais, on se retrouve finalement...
Mais boxer, c'est avant. Enfin, c'est pendant que c'est utile.
Figurez-vous que c'est un exercice qui plaît beaucoup. Et je pense qu'il est très révélateur et très salvateur. Donc voilà, on essaie de mettre en place, à travers différents ateliers lors de ce séminaire, tout un travail de conscientisation tout un travail de conscientisation sur ce thème.
Alors Yasmina est au téléphone au 01 53 48 3000. Bienvenue Yasmina, on vous écoute.
Oui, bonjour. Bah, je suis contente de passer sur Beurre FM.
Bah, écoutez, ça fait plaisir de vous entendre sur Beurre FM, Yasmina.
Voilà, surtout avec vous et avec la dame qui est avec vous. Donc voilà, je suis concernée. Je suis en plein divorce. Je vais commencer. Je m'appelle Yasmina, j'ai 43 ans. Mm-hmm. J'ai 5 enfants. Ma situation est très délicate étant donné que moi, ça faisait pas mal d'années que ça n'allait pas avec mon ex-mari. Et j'ai entamé 2 divorces et j'ai laissé tomber. Et là, c'est le 3e. Et ça m'a coûté mes enfants. Voilà. Parce que moi, mes enfants, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai 4. Ils ont été placés à l'aide sociale à l'enfance à cause de mon ex-mari, parce qu'il y a eu de la violence. Et ce qu'on me dit, la justice française me dit que j'aurais dû divorcer depuis pas mal de temps, que vous avez laissé la violence agir envers mon grand garçon qui a maintenant 18 ans. Mmh. Et je souffre, je vous dis franchement, c'est un combat, j'ai fait saisir la défense des droits, je me bats pour récupérer mes enfants. Dieu merci, mes enfants maintenant pendant les vacances, ils viennent à la maison, ils viennent le week-end. Mais le problème, c'est qu'ils font des médiations avec le papa et le papa, il veut rien savoir. Voilà, le papa ne veut pas venir parce qu'il n'accepte pas le divorce et il voudrait que moi je revienne avec lui avec tout ce qui s'est passé. Moi, je ne ferai pas marche arrière parce que là, c'est la vie de mes enfants qui est en jeu. Excusez-moi, j'ai du mal à parler.
Bon, on voyez, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sabrina, on est là justement pour vous écouter. Et puis merci de la confiance que vous nous témoignez, de nous raconter votre histoire. Hein.
Voilà.
Je me permets, bonjour et merci de votre appel. On est clairement dans votre histoire.
Voilà. Et pourtant, j'ai porté plainte hein, quand j'étais avec mon ex-mari. J'ai porté plainte et il trouve que c'était pas assez ce que j'avais fait. J'ai porté plainte. Il y a eu séparation plusieurs fois. Il est parti de la maison et à chaque fois, il y a eu un retour. Et
c'est souvent
Par rapport aux deux petits. Moi, j'ai le petit de 6 ans, Mohamed, parce que j'ai 2 paires de jumeaux. J'ai 2 paires. Les 2 premiers, ils ont 15 ans, c'est un garçon et une fille. Les 2 derniers, ils ont 6 ans. Et le grand, il a 18 ans. Et le dernier, Mohamed, il m'en veut énormément pour le divorce. Il me dit c'est de ta faute, mais le papa lui a dit que c'était de ma faute.
Justement, voilà. En fait, ce qui se passe, on a affaire à ce genre de cas aussi. Alors déjà, je me permets de vous dire que, alors même si c'est peut-être pas forcément opportun comme ça à la radio et au téléphone, mais très sincèrement, c'est une étape. D'accord ? C'est une étape pas forcément facile et c'est une étape dont vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir parce que
je suis très forte de caractère.
Voilà, exactement, parce que vous le voulez. Deuxième chose, ce qui se passe lorsqu'il y a un divorce et qu'il y a des enfants, Dieu merci, pas tout le temps, mais très souvent, les enfants sont pris en otage.
Ouais,
d'accord. Les enfants sont pris en otage, donc que ce soit le papa ou la maman. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est par le biais du papa. Ils sont pris en otage d'une manière tacite. Il y a une manipulation.
C'est un chantage qu'il fait. Ouais, c'est un chantage qu'il fait. Il me dit, je ne fais pas la médiation, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, si tu entames le divorce. Mais attendez, mais on est dans une situation de fou, ça ne va pas, non ?
En fait, ce qui
moi,
se passe...
Moi, je n'ai plus rien pour lui.
Voilà, ce qui se passe, en fait, c'est que finalement, l'ex-conjoint va faire vivre, perdurer la relation tant que faire se peut. Et les enfants... sont la meilleure des passerelles, malheureusement. Moi, ce que je vous invite à faire, si c'est déjà fait très bien, et de vraiment persister là-dedans, c'est vraiment un accompagnement psychologique pour les enfants.
C'est ce que j'ai fait.
Je vous invite également, c'est-à-dire un accompagnement psychologique, vous et vos enfants ensemble, pour
c'est
pouvoir
ce que je suis en train de faire.
Voilà, et donc continuer sur cette voie là vraiment.
La médiation, elle a été entamée parce que j'en ai parlé à l'aide sociale à l'enfance et j'ai forcé parce qu'au début je dis moi je veux une médiation avec mes enfants, je suis encore responsable légale, je suis passée en non conciliation, la garde des enfants c'est moi qui ai la garde des enfants, l'autorité parentale elle est partagée mais la garde des enfants c'est moi qui l'ai.
D'accord.
Les enfants, je les récupère le week-end. C'est dur, je vous dis franchement, parce que ils sont placés. Le premier foyer où ils sont les grands, ça se passe bien. Mais les 2 petits, ils sont dans un foyer, c'est une horreur. J'ai dû saisir la défense des droits. Enfin bref, c'est une horreur.
Donc c'est vrai que ce genre de combat, on a tendance à se sentir seul et parfois aussi pas entendu. Et honnêtement, vraiment merci pour votre appel. Et j'ai juste envie de vous dire que...
Pourquoi ? Voilà. Pourquoi j'ai appelé ? Parce que je sais que je ne suis pas toute seule dans ces situations-là. Et plein de gens se battent pour contre l'aide sociale à l'enfance. Et c'est pour ça que je voulais parler à la radio, pour que les gens puissent... Moi, je veux dire aux gens qui m'écoutent, ne vous laissez pas faire. Et défendez-vous, parce que moi, c'est un combat. Je suis en train de vivre un combat. Et c'est pas évident pour moi. Je vous dis franchement, c'est pas évident pour moi. Dieu merci, je sais lire, je sais écrire, et des courriers j'en ai fait, et des attestations j'en ai eu. Mais je vous dis franchement, c'est un combat.
Voilà. Alors c'est un combat. C'est un combat dans la mesure où finalement on se sent agressé, finalement, ouais, surtout parce que l'on a de plus cher, et là en l'occurrence dans ce témoignage, ses enfants. Ceci étant, toujours garder, parce que vous êtes dans la moelle épinière en fait là de ce qui est en train de se passer, et de vraiment toujours garder le focus sur voilà ce que je suis en train de traverser. Je ne vais pas le traverser toute ma vie. Je ne suis absolument pas en train de dire que ce que vous traversez, c'est facile. D'accord. Voilà, nous lors du séminaire, on précise bien, voilà, ce qui se passe, il y a des cas encore très très, enfin beaucoup plus lourds, et on est dans le respect total et la bienveillance du fait que ce qui se passe là, c'est difficile. Ce qui se passe là, voilà, on est là dans l'instant.
C'est une étape, voilà, c'est la tempête.
Oui.
C'est une tempête.
Exactement.
Une grosse tempête.
Il faut essayer d'être. C'est difficile, mais lorsqu'on arrive à faire ça.
Ça fait combien de temps ? Ça fait un an. Mes enfants, ils ont été pris en octobre 2014. Ça fait un an et cinq mois. Je compte les mois.
Alors essayez d'être visionnaire. C'est pas facile, mais je vous assure que c'est ce qui va vous permettre de maintenir le cap. C'est-à-dire là, tout de suite, je sais très bien où je suis. Et ben je vais me. C'est un exercice qu'on propose aux enfants qui s'appelle ma porte du futur, où en fait on propose aux enfants en fait finalement de se visualiser de manière positive dans un futur proche. D'accord. Et en fait c'est quelque chose. Et c'est quelque chose qu'en tant qu'adulte aussi, on a tendance à oublier les enfants cette facilité de passer du conscient à l'inconscient.
Ils ont du mal à comprendre, les petits 6 ans. Ils ont du mal à comprendre.
Parce que l'accompagnement demande du temps aussi. Hein. Juste, voilà, rester sur cette lignée-là et continuer et ne lâchez pas le cap, surtout.
Ouais, je ne lâcherai pas. C'est des enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Je les ai bien au
bon. Bon, lâchez pas, Yasmina. Ils ont besoin de vous, en tout cas.
Ils ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux.
Bien. On vous embrasse, Yasmina.
Je veux bien avoir les coordonnées de la dame qui a fait des séminaires, si je peux.
Alors, on donne... qu'est-ce qu'on peut donner, Sabrina ?
Alors, on peut donner, très pro, ma page Facebook. Donc, c'est Sabrina Artis, H-E-A-R-T-I-S-T.
Alors, si les gens ont compris, vous avez de la chance. Hein.
Sinon, beaucoup, beaucoup plus simple, vous pouvez nous contacter sur le mail Miroir Event, donc Miroir, et ensuite E-V-E-N-T, @gmail.com.
Non, pas de problème.
On a une page Facebook aussi, Miroir Mon Beau Miroir.
D'accord, il n'y a aucun problème.
Merci, Yasmina.
J'espère qu'il va s'ouvrir.
Ouais, voilà. Exactement.
Merci.
En tout
cas, merci beaucoup.
Merci. Gros bisous, Yasmina.
Bon courage.
01 53 48 3000, vous intervenez en direct. On a le temps d'accueillir Assina, qui est avec nous. Bienvenue, Assina.
Allô ?
Oui, bonjour, Assina.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame, monsieur.
Bonjour.
Alors, moi, depuis 10 ans, j'ai divorcé. Mais le père des enfants, jusqu'à maintenant, ils sont majeurs, les enfants. Jusqu'à maintenant, il les remonte contre moi. Pourtant, il a refusé sa vie. Et moi, non. J'ai eu beaucoup de propositions de mariage. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas voulu faire ça pour ne pas compliquer encore peut-être la vie de mes enfants. Et voilà, il remonte toujours contre moi. Il change le rôle. C'est lui la victime et c'est moi le coupable. Jusqu'à maintenant. Et mon fils, malheureusement, il est influençable, l'aîné. Bah, on dirait qu'il n'a pas vécu le martyr avec son père.
Il a quel âge, votre fils, Assina ?
Il a 27 ans.
Le grand. Alors on est pris un peu par le temps, mais justement qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là quand finalement des années après le père continue finalement à dénigrer.
Alors, je vais essayer de venir très très sommaire. En fait, on est très 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 souvent confronté à ce genre de situation où le papa ou la maman, en tout cas.
Ah, le père a refait sa vie quand même.
Oui.
Il a refait sa vie, mais il continue son travail de sape.
Mais parce que, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, c'est une manière d'entretenir la relation. Hein. Et je reviens sur ce terme, c'est très important, les enfants sont ce lien. Maintenant, c'est malsain, conscient ou pas conscient, c'est malsain. Et souvent, on se retrouve face au fait que les enfants, malgré le fait qu'ils aient pu vivre parfois des situations dramatiques ou être témoins, et ben, en fait, exactement le terme, ils ne se retrouvent plus témoins. À partir d'un moment, ils se retrouvent acteurs. Et alors que ce n'est absolument pas leur rôle. Donc, il y a tout un travail pareil de déconstruction, de frontières là aussi, dans la mesure où l'enfant doit retrouver sa place, même à cet âge-là, parce que dans la mesure où il va...
Même à 27 ans, ce n'est pas son histoire.
Mais exactement.
C'est l'histoire de ses parents.
Nous, en tant que, par exemple, là, en l'occurrence pour madame, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de se dire, bon, effectivement, c'est mon enfant, mais c'est mon histoire. Et donc, en fait, là, je n'autorise pas mon enfant à prendre ce parti. Et ne pas avoir peur de perdre son enfant. Oui, on ne perd pas son enfant. On ne le perd pas. Non, du tout. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que cela. Il faut aussi, à un moment donné, assumer certaines choses. Et lorsque je dis assumer, c'est assumer le fait de se dire, je n'accepte pas.
C'est compliqué parce que quand les mamans ne refont pas leur vie, décident de ne pas refaire leur vie pour les enfants, justement.
C'est un sujet que j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder décision.
C'est dur parce que.
Avec des conséquences.
Oui.
Mais juste une chose, juste pour terminer, c'est juste très important de préciser en fait que je ne vais pas autoriser mon enfant à prendre parti en fait, tout simplement. De manière sommaire.
Bon, on est un peu pris par le temps, Assina, mais on en reparlera et j'espère que vous nous rappellerez à ce moment-là. Et on vous embrasse et puis on vous remercie de votre appel. Sabrina Gassi-Martis, merci d'avoir été avec nous.
Merci
à vous. On rappelle rapidement votre page Facebook.
Sabrina, alors il y a Miroir, mon beau miroir. Et puis Sabrina, artiste.
Bien, c'est parfait. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous demain à midi. Très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.